Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de ce programme spécial de renforcement des capacités initié par l'Agence territoriale du développement agricole du pôle 7, ATDA 7. Docteur Salifou Chakirat, vous êtes enseignant-chercheur à l'école polytechnique de l'Université d'Aoumé-Calavi et vous avez pour spécialité la biochimie, le contrôle des qualités et la technologie alimentaire. Durant cette formation, vous avez entretenu les participants sur le LOM HSCE. Déjà, rappelez-nous les objectifs que poursuit cette dernière.
La communication de ce matin a porté sur le HSE, hygiène, sécurité et environnement. Et cette communication avait pour objectif d'informer les transformateurs agroalimentaires de l'ATDA Pôle 7 sur les dangers et risques liés à la transformation agroalimentaire, les mesures de protection de l'environnement et les mesures de prévention des accidents et maladies au lieu de travail.
D'accord. Et pourquoi les transformateurs agricoles doivent mettre en application des mesures HSE?
Les mesures HSE permettront aux transformateurs de garantir au-delà de la sécurité des denrées alimentaires qui sortent de leurs unités de transformation, la santé, la sécurité des collaborateurs sur les lignes de production, l'hygiène du site et des processus de transformation et aussi la protection de l'environnement.
OK. Durant votre développement, vous avez fait cas de la protection de l'environnement, également de d'autres mesures. Et est-ce que cela voudra dire que vous pouvez déjà nous parler des mesures d'hygiène que le transformateur doit observer dans son unité?
De façon générale, les transformateurs agricoles doivent respecter les bonnes pratiques d'hygiène qui portent sur 7 points, à savoir l'hygiène du personnel, l'hygiène relative au transport et au stockage, le nettoyage et la désinfection, l'hygiène des locaux, la lutte contre les nuisibles et la gestion des déchets. Alors, en exemple, on peut par exemple dire que le personnel doit adopter une hygiène corporelle et une hygiène comportementale. Mettre les vêtements de travail, ce que nous appelons communément équipement personnel, équipement de protection individuelle, les combinaisons, charlottes, gants et bottes. Au-delà de l'hygiène personnelle, et on a parlé du nettoyage et de la désinfection. Voilà, le milieu de travail, le matériel utilisé, tous les équipements doivent être nettoyés régulièrement et désinfecté. Il faut faire la différence entre le nettoyage et la désinfection. Nettoyer, c'est enlever les grosses souillures visibles. Désinfecter, c'est agir pour éliminer les micro-organismes, les bactéries, tout ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, comme règle d'hygiène, il faut déjà prendre des mesures pour rendre vraiment propre le lieu de travail, le matériel utilisé et d'autres règles de façon générale, portant sur les 7 points que j'ai énumérés au préalable.
Alors, ça fait autant de normes ou de mesures à respecter par les transformateurs. Ce qui veut dire qu'il existe, bien évidemment, des défis à relever dans ce sens, n'est-ce pas?
Oui, de façon générale, dans les clusters, les exploitations ou les entreprises de transformation agricole font face à des défis tels que le manque de moyens financiers pour se mettre au pas, pour se conformer aux normes, au contenu des normes et pour se conformer à la réglementation. Parce que quand on leur demande par exemple d'agir sur l'hygiène du personnel, même si l'employé, le collaborateur a une hygiène personnelle propre, c'est-à-dire satisfaisante, au lieu du travail par exemple, il doit pouvoir se laver les mains à des moments réguliers et à des postes donnés. Avoir des postes de lavage de mains, avoir plusieurs postes de lavage de mains qui respectent les normes, c'est un investissement. Et si on tient compte de la taille des entreprises ou unités de transformation, et ils n'ont pas assez de moyens financiers pour pouvoir investir et se mettre aux normes, avoir les dispositifs nécessaires pour garantir l'hygiène. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Et quand on prend les locaux, les infrastructures, il faut que les infrastructures respectent certaines normes pour que l'hygiène soit, le maintien ou la maîtrise de l'hygiène soit facilitée. S'ils n'ont pas les moyens d'avoir un revêtement lisse pour faciliter le lavage, ils ne pourront pas le faire. C'est pour ça que je parle du défi de moyens financiers. Ils ont besoin d'être accompagnés financièrement. Au-delà du manque de moyens financiers, ils ne savent pas qu'il faut avoir une politique. La politique qualité, oui. La politique hygiène, sécurité et environnement. Ils doivent avoir une vision par rapport à la thématique. Quelle est notre vision? Où allons-nous? Qu'est-ce que nous nous engageons à faire pour respecter les exigences ou le minimum en matière de qualité ou en matière d'hygiène, de sécurité et environnement? Donc, c'est un défi. C'est parfois l'ignorance et c'est l'absence aussi de savoir-faire. Donc, il faut les accompagner, les sensibiliser à avoir une politique QHSE. Et aussi, ils doivent savoir ce que la réglementation du Bénin exige en matière d'hygiène et de sécurité environnement. Donc, il faut les former sur le contenu des règlements, des décrets ou arrêtés qui existent et qui font recours à la thématique HSE.
Oui, justement. Quand on parle de l'HSE, ce n'est pas seulement de l'hygiène, mais également de la sécurité. Non seulement celle des consommateurs, mais surtout celle des employés. Ce qui m'amène à vous demander les principaux risques qu'on peut identifier dans les industries agroalimentaires, docteur.
Oui. Dans les entreprises agroalimentaires, on a comme risque, par exemple, la contamination. La contamination des aliments, tout le monde est informé sur ça, que l'aliment peut être contaminé. Oui, mais l'opérateur, la main d'œuvre aussi, peut être contaminée. Si on a un collaborateur, un salarié ou un employé qui est malade, s'il n'est pas isolé, s'il ne reste pas à la maison, s'il ne signale pas, il est une source de contamination, non seulement pour l'aliment qu'il produit, mais pour ses autres collègues. Donc, il y a les contaminations à partir de la main-d'œuvre ou la main-d'œuvre qui se contamine à partir aussi des substances qui sont utilisées. J'ai parlé de la désinfection. Pour faire la désinfection, il y a des produits qu'on utilise. Si la procédure d'utilisation, les instructions ne sont pas respectées, le personnel peut être contaminé à force d'utiliser ou de manipuler le même produit sans les mesures préventives. Il peut être contaminé, il peut s'intoxiquer. Donc, c'est un exemple de risque dans les entreprises agroalimentaires. L'exposition au froid ou à la chaleur extrême, le froid, pour les entreprises qui transforment les denrées alimentaires d'origine animale, qui doivent les garder dans des chambres froides, qui doivent aller dans les chambres froides pour prendre, pour sortir, etc. Vous voyez, ils sont exposés. Et ceux qui font la stérilisation, qui préparent, ça c'est la chaleur intense, les cas de brûlure, de déchirure, des glissades. Quand on utilise de l'eau et qu'on a de l'eau au sol, si on n'a pas des chaussures adaptées, on peut glisser. Des cas d'accident, il y a tellement de risques qu'il faut vraiment prendre des mesures préventives pour les éviter.
OK. Et du côté de l'environnement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que HSCE, ça parle de l'environnement également. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'initiative environnementale? que les exploitations agricoles devraient normalement mettre en œuvre.
Oui, pour gérer les risques, là, nous abordons la gestion des risques dans les unités de transformation agroalimentaire. C'est déjà, comme je l'ai dit à l'entame, d'avoir une politique, de savoir là où on va et de s'engager à mettre les ressources à disposition pour aller vers. C'est très important, c'est indispensable. Et après ça, il faut maintenant élaborer le plan de prévention des risques. C'est ce plan-là qui va nous permettre de gérer, parce qu'on a parlé de la gestion des risques, qui va nous aider à bien gérer les risques, à les maîtriser, à éviter que les risques ne deviennent réalité au sein de l'entreprise. Donc, pour chaque étape du process de la chaîne de production, on doit pouvoir identifier les risques et les évaluer. Après l'évaluation, maintenant, on sait à peu près le risque, qu'est-ce qui cause ou qu'est-ce à la base, les causes d'apparition ou de réalisation. Et on avait déjà défini les mesures préventives qu'on va mettre en place. Et comme mesures préventives, et on peut dire par exemple, porter les tenues, les vêtements de travail adaptés. C'est par exemple une mesure préventive. Adapter le travail à l'homme. Il ne faut pas aussi que le travail ou la tâche de l'employé soit une tâche qui l'amène à avoir une altération de sa santé. S'il doit par exemple soulever des charges tout au long de la journée et tous les jours, vous voyez, il faut penser à un mécanisme pour pouvoir élever les charges. On a des dispositifs pour ça. C'est très important. Donc, adapter le travail à l'homme et penser au poste, à la conception, au moment de la conception du poste, il faut vraiment tenir compte de l'homme qui va réaliser la tâche à un poste bien déterminé pour pouvoir choisir le matériel ou les équipements nécessaire pour la réalisation de la tâche donnée. Il faut respecter la législation en matière de sécurité. Ça, je l'avais dit, c'est aussi une mesure préventive. Et protéger les machines ou équipements de travail susceptibles de créer des dommages aux travailleurs. C'est très important. Et un aspect aussi très, très indispensable, c'est la formation du personnel. Parce que si on prend ces mesures-là, s'ils ne sont pas formés, ils ne seront pas. Quand on a d'équipements, des machines qui sont des machines dangereuses, par exemple, il faut former le personnel à l'utilisation des machines, au risque qu'ils courent s'ils ne respectent pas les instructions d'utilisation pour qu'ils savent vraiment que ce qu'on me demande de faire, c'est pour mon bien-être. Donc, la formation, elle est indispensable. C'est le maillon principal. Il faut former, sensibiliser et mettre à disposition toutes les informations nécessaires à la prévention des risques.
D'accord. Et puisque vous avez parlé des émissions de gaz à effet de serre, je voudrais profiter pour savoir les mesures que vous proposez pour réduire ces émissions et autres polluants, bien sûr, dans le domaine de l'agroalimentaire.
De façon générale, les exploitations agroalimentaires ou les entreprises agroalimentaires contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Ils contribuent à la déforestation, tout dépend de ce qu'ils utilisent comme source d'énergie, et à d'autres formes de pollution de l'environnement. Et ils peuvent réduire leur impact négatif sur l'environnement en rationalisant leur consommation en termes de ressources naturelles. Par exemple, l'eau, rationaliser l'utilisation de l'eau et penser à traiter les eaux usées, par exemple, en vue de leur réutilisation. C'est très important. Ils doivent penser à réduire continuellement leur consommation en énergie avec des solutions pour une meilleure efficacité énergétique. Faire des choix des énergies renouvelables, par exemple le biogaz, utiliser des chaudières à biomasse, etc. Donc ça fait partie des initiatives qu'ils peuvent prendre pour protéger l'environnement. Et aussi, il y a la gestion des déchets. Parce qu'ils produisent assez de déchets, il faut une solution pour bien gérer les déchets, ne pas laisser les déchets et polluer l'environnement, pas laisser les déchets constituer des tas d'ordures, parce que ces déchets-là entraînent les bestioles. Donc, si je prends le cas des producteurs de jus d'ananas, vous voyez, avec les épluchures, la peau, c'est sucré, il y a des mouches qui pullulent et vraiment, les conséquences sont énormes pour l'environnement.
Vu que vous avez abordé, sinon vous avez fait quart des engins électriques et tout, est-ce que cela voudra dire que vous conseillez aussi les énergies renouvelables dans la production agroalimentaire?
Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Je vais demander aux transformateurs agroalimentaires d'opter pour les circuits de distribution très courts. Parce que plus le circuit il est long et plus on produit des gaz à effet de serre, le moyen de transport. Si on prend une moto, si c'est une voiture, vous voyez, plus la distance est longue, plus les émissions. Donc, il faut accorder une priorité aux circuits de distribution très courts. Voilà. Il faut aussi opter pour les emballages en matière éco-conçue. Les emballages biodégradables, par exemple, parce que les transformateurs emballent leurs produits. Donc, c'est très important. Et on sait que normalement, dans la réglementation béninoise, l'utilisation des sachets plastiques, par exemple, est interdite. Donc, opter pour les emballages biodégradables et réduire la consommation énergétique, adopter, par exemple, les transports électrifiés. Tout à l'heure, j'ai parlé des circuits de distribution. Si on associe au circuit de distribution les transports électrifiés, c'est que on éjecte moins dans l'environnement. Donc, c'est des initiatives, des solutions pour réduire son impact environnemental.
D'accord. Et on peut le dire, hein, aucun domaine n'est exempt de défis. Je vais donc vous demander les actuels défis environnementaux surtout, auxquels les transformateurs font face. Et aussi, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour relever ces défis-là?
Défis environnementaux, on a la gestion des déchets. Parce qu'ils produisent énormément de déchets et ils ne savent pas comment gérer les déchets. Donc, ils peuvent se mettre en réseau, voir ceux qui transforment ces déchets et mettre en place un dispositif de collecte de déchets pour que ces déchets-là ne restent pas longtemps sans gestion dans l'environnement. Donc, la gestion des déchets est un grand défi pour eux. Nous avons aussi l'utilisation de l'eau et le traitement des eaux résiduaires. Ils ne savent pas comment faire. Ils utilisent de grandes quantités d'eau et quand ces eaux-là sont souillées, qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils ne sont pas encore suffisamment outillés ou ils n'ont pas encore les moyens pour aller vers le traitement des eaux résiduaires et les traiter pour pouvoir les réutiliser. Donc, ça fait partie des défis importants.
Ok, nous allons revenir sur les réglementations, surtout celles locales et nationales. Pourquoi pas les réglementations internationales aussi en matière de l'HSE? Est-ce que vous pouvez nous dire ou vous pouvez nous éclairer un peu la lanterne à propos de ces réglementations-là?
Oui, merci. Sur le plan international, nous avons deux normes. La norme ISO qui porte sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Donc, nous avons la norme ISO 45001 qui porte sur la gestion de la santé et de la sécurité. Donc, avec cette norme, on peut avoir ce qu'il faut faire, les directives par rapport aux mesures à prendre pour et garantir l'hygiène, la sécurité, la santé. Par rapport à l'environnement, nous avons la norme ISO 14001 qui donne aussi les directives sur les recommandations et ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement. Maintenant, sur le plan national, nous avons toute une gamme de lois, de règlements, de décrets et d'arrêtés qui concourent à la protection de l'environnement, à la préservation de la santé, la sécurité des travailleurs. Donc, il faut aller prendre chacun de ces documents et voir quelles sont les parties qui renseignent sur la thématique. Alors, par rapport à l'environnement, je pourrais énumérer ou citer la loi numéro 98-030 du 12 février 1981 portant loi cadre sur l'environnement au Bénin. Et par rapport au code de travail, nous avons la loi numéro 98-004 du 27 janvier 1998. En ce qui concerne l'hygiène, il y a par exemple la loi numéro 2022 du 16 février qui porte sur le code de l'hygiène en République du Bénin. Donc il y a vraiment toute une gamme. Ces lois existent sur le site du gouvernement béninois. On peut aller les télécharger, les lire et voir ce qu'on attend de nous en tant que transformateurs, en tant que promoteurs d'entreprises agroalimentaires et mettre ces exigences-là en pratique.
Chers auditeurs, avant que nous ne mettions un thème à ce podcast avec notre formatrice, allons écouter un peu les impressions des participants à cette formation sur les normes de la HSE.
Très honnêtement, je suis vraiment épaté et ça m'a apporté un de plus. Bien que je suis déjà formé dans cette formation, ça m'a permis de me rappeler de certaines choses.
Moi, je vous remercie, je profite de cette occasion pour remercier la TDA pour cette opportunité qu'ils nous offrent à travers cette formation. Et sincèrement, je leur dis un grand merci.
Alors, cher docteur, si vous devez dire quelque chose à notre informateur qui ont suivi cette formation ou encore à ceux qui n'ont pas pu, mais qui nous écoutent actuellement, vous diriez quoi, généralement?
Merci. Pour finir, je vais demander aux entrepreneurs, aux professionnels du secteur agroalimentaire à prendre connaissance de la législation, de la réglementation en matière d'hygiène, sécurité et environnement au Bénin. Et au besoin, aller vers les normes internationales et s'approprier des contenus pour savoir ce qu'on attend d'eux. Parce que s'ils ne le savent pas, ils ne pourront pas les appliquer. Et je leur demanderai aussi de mettre les moyens nécessaires à la disposition de leur entreprise, d'investir vraiment sur cet aspect-là pour que les collaborateurs travaillent dans des environnements sûrs et que leur santé soit préservée. C'est vrai, ils savent déjà qu'ils ont l'obligation de mettre sur le marché des produits sûrs pour le consommateur, des produits sains. Mais c'est aussi une obligation pour eux de préserver l'environnement, de préserver la santé des collaborateurs. Si le collaborateur, l'employé, le salarié ne se porte pas bien, l'entreprise ne sera pas durable. Il n'y a pas de chiffre d'affaires à réaliser. Merci.
Nous voici à la fin de ce numéro. Nous remercions nos différents intervenants sur ce thème. Je vous le rappelle, c'est un programme offert par la TDA du Pôle 7 et qui est diffusé sur 5 radios partenaires. Radio Tokpa, La Voix de la Vallée, Radio Lokosa, Radio GEDES et Radio Sedohum. Prenez le rendez-vous à la même heure et sur cette même fréquence pour d'autres thématiques.